C'est pas toi qui m'avais fait ça, Lucas.
Je crois que c'est toi qui m'avais fait, il y a longtemps. Matthieu chapitre 22, s'il vous plaît, avec moi. Bonjour à tous. Versets 37 à 39. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Dieu soit béni. Remercions Seigneur de bénir cette parole dans nos cœurs et de nous permettre de corriger ce qui doit être corrigé afin que nous puissions véritablement tous regarder dans la même direction vers toi Jésus. Amen. En fait, mon message pourrait s'appeler ce matin « Dans quelle direction regardez-vous ? » Dans quelle direction regardez-vous ? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire attention de ne pas nous tromper. Dieu parle, mais il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui parlent aussi. Et c'est Dieu que nous devons écouter. Nous devons donner toute notre attention à ce que Dieu dit. Et vendredi soir, je vous parlais de l'importance des suppositions. Et je vous disais que c'est un véritable poison et que nous devons maîtriser cette tendance que nous avons, cette fâcheuse tendance que nous avons de supposer. Il vaut mieux poser des questions. Quand on n'a pas compris quelque chose ou quelqu'un, poser des questions plutôt que de supposer. Parce que les suppositions, elles nous empoisonnent et ensuite on va les dire aux autres et puis on empoisonne leur vie et ça a un pouvoir terrible, c'est un véritable poison, c'est quelque chose de très mauvais. Alors, c'est vrai, celui qui est croyant, Jésus a dit qu'il pourra absorber des poisons. Bon, d'accord, on ne va quand même pas faire exprès non plus, hein. Ça ne nous fera pas vraiment de mal, mais quand même, ça dérange. Et puis aussi, il faut dire qu'on n'est pas toujours au top, on a beau être des chrétiens, on n'est pas toujours... on est pétri de sentiments, de toutes sortes de choses, et puis il y a des jours où on va moins bien que d'autres, et alors le poison ne va pas nous tuer, c'est vrai, ça ne va pas nous tuer, mais ça va nous rendre malades, peut-être, et puis surtout... Ça va nous retarder dans notre progression. On n'a pas besoin de ça. Jésus revient bientôt. On n'a pas besoin d'être retardé dans notre progression, dans notre marche en avant. Vous savez, le prophète William Branham disait de lui-même qu'il était très nerveux. Et un prophète, normalement, c'est quelqu'un d'un peu plus sensible que la moyenne, parce que sans cette sensibilité, il ne pourrait pas recevoir les messages de Dieu. Et notre frère Branham disait qu'il était très souvent malade de l'estomac. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, comment il allait crier à Dieu, et puis Dieu l'a montré, il y avait eu dans un désert un écureuil qui était pris dans des ronces. Je ne sais pas si vous vous souvenez, puis Dieu lui a dit « ton ennemi est mort ». Mais c'était des maladies qui se déclenchaient, c'était dans son estomac, son estomac était devenu comme du carton, et ça lui faisait horriblement mal, parce qu'il faisait des maladies, ce qu'on appelle psychosomatiques. C'était un homme soucieux, c'était un homme nerveux. Alors il était entouré d'hommes et de femmes qui l'aidaient dans son ministère, son épouse premièrement, et puis ses enfants, puis toutes sortes de frères et de sœurs, le frère Neuville, vous vous rappelez, toutes ces personnes dont il parle souvent. Et souvent, ces personnes venaient vers lui parce que ce n'était pas qu'une machine à prêcher. Il vivait aussi à côté. Ces gens venaient vers lui et lui parlaient. Mais il ne venait pas pour lui faire du mal, bien sûr que non. Personne, aucun chrétien, va vers un autre pour exprès lui faire du mal. Cependant, il lui faisait du mal en lui racontant des faits avec leur propre interprétation qu'ils avaient échafaudée au sujet des faits, des choses qu'ils avaient vues, qu'ils avaient entendues et tout. Et ils venaient lui parler en fait de leurs suppositions. Vous trouvez ça, vous lisez ça et vous vous en rendez bien compte quand on lit sa biographie ou même quand on écoute ses prédications. Alors, je vais vous dire quelque chose d'important qui concerne l'ordre établi par Dieu. Ce matin, on a vu, il y a deux commandements, il a dit premièrement, il y a celui-là. Et puis deuxièmement, il y a celui-là. Un homme, une femme responsable, quelqu'un qui a été élu de Dieu, qui marche dans la révélation, qui a conscience de sa responsabilité, Il ne représente pas le peuple vers le prophète, il représente le prophète vers le peuple. Très différent. C'est très différent. Il y a un ordre établi. Nous savons qu'il y a beaucoup de vraies et d'authentiques et de sincères vierges folles qui dorment actuellement. Et ce matin, je ne m'adresse pas à des dormeurs, je m'adresse à des gens réveillés et des vierges qui ne dorment pas, à celles qui ont pris conscience, qui ont entendu le message d'Élie. Il va y avoir bientôt un article sur Révélation Bible au sujet d'Élie qui est venu, qui ont pris conscience, qui ont entendu ensuite la voix de l'archange qui se fait entendre partout sur cette terre et qui dit « L'époux vient ». Aller à sa rencontre, mais on ne peut pas aller à la rencontre de quelqu'un en marchant comme ça. Hein. Il faut regarder là où on met les pieds. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas dans quelle direction vous regardez. N'oubliez pas ça. Essayez de plaire aux gens avant de plaire à Dieu. C'est inverser le premier et le deuxième grand commandement de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. C'est les inverser. C'est oublier dans quelle direction vous regardez. L'époux vient, allez à sa rencontre. L'époux, c'est la parole. Jésus était la parole faite chair. Maintenant, nous avons la parole faite livre. Et puis son esprit qui nous inspire et les ministères qui nous parlent. N'allons pas vers la parole pour représenter le peuple, mais allons vers le peuple pour représenter la parole. C'est très différent. Nous n'écoutons pas les avis du peuple. Nous n'écoutons pas leurs suppositions. Nous écoutons la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Nous regardons la parole et nous la donnons ensuite au peuple. Un homme avisé, une femme avisée, ne représente pas le peuple auprès du prophète, auprès du porte-parole, mais... Il ou elle, cet homme avisé ou cette femme avisée, représente la parole de Dieu portée par le porte-parole au peuple. Alors n'oubliez pas dans quelle direction vous regardez. Nous regardons à l'arbre de vie. Jésus est la parole, il est l'arbre de vie. Nous le regardons pour nous nourrir de son fruit. Pas simplement parce qu'il est joli. Jusqu'à présent, cet arbre, il était un peu hors de vue. Nous nous rapprochons de plus en plus de cet arbre. Cet arbre, il est dans un champ, dans le monde, sous forme d'écrit, sous forme de ministère, sous forme de manifestation de puissance. Mais il est au milieu d'un vaste champ. Et en marchant, en progressant dans la connaissance de la parole de Dieu de cette heure-ci, vous savez que la Bible nous dit qu'à la fin, ça serait les ténèbres, et nous voyons bien que c'est les ténèbres dans ce monde, mais il dit, à l'heure du soir, une lumière poindra, et nous sommes à cette heure du soir où la lumière commence à se faire, et nous pouvons voir dans quelle direction il faut marcher, nous devons aller vers cette lumière. Et nous voyons de plus en plus clairement, et nous entendons de mieux en mieux, cette voix qui nous dit d'aller... à la rencontre de l'arbre de la vie, et d'en manger, et de nous en nourrir, de nous nourrir de la parole du soir, de cette lumière qui apparaît parce que nous nous rapprochons, nous allons à la rencontre. Le champ, il est toujours aussi vaste, et l'arbre, il est toujours aussi unique. Tout près de l'arbre, se trouvent nos bien-aimés, se trouve Isabelle qui nous a quittés il y a quelque temps, ma mère qui nous a quittés aussi et que mon père a rejoint un peu de temps après, Raphaël, Violette, Daisy Osborne, T.L. Osborne et tant d'autres que nous connaissons, que nous avons chéris, que nous avons aimés, qui sont partis avant nous comme notre frère Marc Archimie qui est parti cette semaine et il se trouve là maintenant. Jusqu'à l'arbre de vie, il y a un sentier à travers ce vaste champ. Il y a un sentier étroit. Et sur ce sentier, c'est là que nous marchons, nous sommes en train de marcher, et par la foi, on mange du fruit déjà de l'arbre. Chaque fois qu'on prend le pain et le vin, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie, parce qu'il est l'arbre de la vie. Mais c'est par la foi. Mais il m'a été dit par le Seigneur que ça peut devenir une tradition aussi. Maintenant, le véritable fruit, le vrai fruit, il est tout proche. Parce que nous allons à sa rencontre et nous devons regarder, avoir les yeux fixés sur l'arbre de vie, sur la parole. Et ne pas nous embarrasser des choses de la terre, des soucis personnels, de l'orgueil spirituel, de toutes sortes de bêtises. Nous ne devons pas quitter l'arbre de la vie des yeux. La parole, les porte-paroles qui se tiennent sur le sentier, qui montrent la direction. Voici, je vous donnerai un signal. Il y a un signal qui est donné sur ce sentier pour montrer encore la direction. Parce que de plus en plus, il y a une foule qui s'approche du sentier. Dans ce champ, il y a des gens qui sont dispersés à gauche, à droite, mais de plus en plus, comme la connaissance augmente, ils s'approchent du sentier. Sans s'y engager vraiment, ils marchent à nos côtés, mais ils ne sont pas vraiment sur le sentier. Ils nous suivent, ils suivent en marchant à côté, dans le monde, dans un monde qui, leur monde à eux, il est religieux. Il y a beaucoup qui voudraient arriver sur le sentier, mais, il y a un mais, ils ont leur avis, ils ont leur credo, ils ont leur religion, et tout ça en réalité, ça cache leur volonté de ne pas vraiment s'engager, parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a du travail à faire, parce que c'est, la chair n'aime pas ce qui se passe sur le sentier. Leurs habitudes, leurs clubs religieux, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, se mettre à dos leurs clubs religieux. Alors, bon, ils marchent, mais ce n'est pas ça. Nous n'avons pas à les écouter, ni à rapporter leur credo sur le sentier. Parce que si on ramène leur credo sur le sentier, on va ramener du brouillard, de la confusion. La Bible dit que c'est à eux de venir à nous et non pas nous, à nous d'aller vers eux. Bien sûr, on va vers eux pour les évangéliser, mais vite on revient, on ne reste pas, hein, on ne se laisse pas influencer. Évangéliser, ce n'est pas seulement évangéliser les inconvertis, évangéliser, c'est aussi apporter la bonne nouvelle à des chrétiens. Et eux, ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est du brouillard, malheureusement. Il ne faut pas ramener ça sur le sentier. Frères et sœurs, dans quelle direction regardez-vous? Qu'est-ce que vous écoutez? Quand la voix de l'archange de 1 Thessaloniciens 4 se fait entendre, il faut dire la même chose que lui. Il faut parler le même langage. Ne mélangeons pas avec le brouillard. N'écoutons pas les suppositions. Soyons les représentants du prophète et de l'archange auprès du peuple pour l'encourager à marcher en regardant à Jésus. Mais ne nous laissons pas hypnotisés par eux, et ne nous laissons pas influencer. Il ne faut pas être honteux de marcher ailleurs que là où marche la majorité. Tout le monde marche dans ce champ vaste. La pression du groupe qui est dans le champ vaste essaye de modifier l'attitude de ceux qui sont sur le sentier étroit. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'apostasie. Les gens du champ cherchent à nous rendre honteux, voire même coupables, parce que nous choquons par nos prises de position. Alors, mes frères et sœurs, il faut que nous cherchions à coexister dans le respect, la Bible dit dans la mesure du possible, soyez en paix avec tous, avec les gens qui nous montrent du doigt, qui nous accusent d'être sectaires, d'être méchants, d'être mauvais, de manquer d'amour. Mais lorsque on est traité de méchants et qu'on est tenté à cause de la peur qu'ils nous font, parce qu'on se dit, oui, finalement, ils ont peut-être raison, je suis dur, eh bien, ça devient un piège. Dans Proverbe 29, 25, il est dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Depuis le vaste champ, ils nous tendent des pièges qui sont habilement conçus, mais un enfant de Dieu qui est éveillé ne va pas tomber dedans. Ils veulent nous tendre des pièges de manière à nous pousser par compassion à tolérer, voire à approuver des choses qui sont condamnées par Dieu. Et quelqu'un qui est faible dans sa foi, qui ne regarde pas bien dans la direction du Seigneur, qui ne se laisse pas inspirer par lui, qui n'écoute pas le Seigneur, qui n'écoute pas les ministres, qui se laisse impressionner par ceux du champ, ceux qui cherchent à plaire à tout le monde, à être tellement plaisant, n'est-ce pas, pour les gens du monde, que finalement, ben, alors ça devient, il y a dans leur vie des pierres d'achoppement. Ils vont s'encroubler, comme on dit en Suisse, ils vont trébucher, parce qu'ils ont l'air d'avoir raison. Mes frères et sœurs, dans quelle direction regardez-vous? Alors il faut prendre la courageuse décision de nous souvenir de l'ordre correct. Le premier et le deuxième commandement de Matthieu 22, 37 à 39. Il faut se souvenir de l'ordre. Il y a un ordre établi. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous regardons premièrement à Dieu, à Jésus. Nous regardons premièrement à lui. Et puis ensuite, nous regardons à l'Église de Jésus-Christ, aux ministres qui sont là, placés par le Seigneur et qui apportent la parole. Et ensuite, eh bien, les gens, nous les aimons. Bien sûr, nous les aimons. Nous aimons tout le monde. Et comme je vous disais vendredi, je n'aime pas ma femme comme j'aime mon voisin. Et je n'aime pas mon voisin comme j'aime les Chinois. Je ne sais pas que je n'aime pas les Chinois, mais voilà quoi. Il y a des ordres. Bien sûr, nous intercédons auprès du Père. Nous lui parlons des gens dans nos prières, mais il ne faut pas oublier non plus que le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. Ce n'est pas les porte-paroles, ce n'est pas les ministres, c'est Jésus. C'est pourquoi, plutôt que de parler de vos suppositions aux serviteurs de Dieu, parlez-en directement à Dieu, si vraiment ça vous tourmente ce que vous supposez. Parce que les serviteurs de Dieu ne sont pas assez solides pour écouter toutes les suppositions de toutes les brebis. Déjà, vous, votre supposition, elle vous trouble. Alors imaginez qu'il y en a 30 qui viennent et puis qui racontent leurs suppositions. Mais quelle horreur! Les serviteurs de Dieu n'ont pas été faits pour supporter tout ça. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas été faits, ils n'ont pas été fabriqués pour supporter ça. Et s'ils essaient de le supporter, ben, ils tombent malades. Comme Branham qui avait des problèmes d'estomac, etc. Et puis, pour faire un peu plus détendu, souvenez-vous de Bruce Tout-Puissant. Un porte-parole, il peut être empoisonné par des suppositions. Et alors, la source qu'il est, il est une source, la parole de Dieu lui est révélée, il l'apporte, la source qu'il est peut devenir amère à cause de ça. Et c'est pourquoi l'auteur aux Hébreux, je crois que c'est l'apôtre Paul, je crois, Hébreux 13, 17, c'est pourquoi il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » Ça ne vous regarde pas, ça c'est eux. Ils devront rendre compte. Alors qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire obéissez et ayez de la déférence, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il veille sur vos âmes, qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Ça ne vous sera pas avantageux. Ce n'est pas avantageux aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas avantageux non plus au peuple. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien lire aux serviteurs de Dieu parce qu'il est en sucre et qu'il faut vraiment... Non, non, ce n'est pas ça. Mais vous devez veiller à ne pas l'empoisonner avec des suppositions. Je me rappelle, mon papa, il disait toujours avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans la bouche. Réfléchis, ça veut dire. Prends le temps. Paul, il était plein de retenue. Quand vous lisez ensuite le verset 18, vous allez voir, si vous le lisez un petit peu entre les lignes, vous allez voir qu'il était plein de retenue. Il faut que vous compreniez sa souffrance. Il ne dit pas ça comme ça par hasard. Il le dit à cause d'une expérience. Lisez le verset, vous verrez. Pensez à toute la puissance que ça peut avoir, ces suppositions. Pensez-vous que nous puissions sauver la face devant les gens en gardant la face devant Dieu? Non. La neutralité n'est pas une vertu dans ce cas-là. Pas du tout. C'est juste de la duplicité. Ça rejoint le texte de Matthieu 6, 24 qui nous dit « servir de maître ». Observez Daniel. Oh, Daniel, il avait du courage quand il affrontait les lions, mais il a montré qu'il avait un cœur de lion quand il a affronté Darius. Regardez, ça c'est dans Daniel 6, regardez ce genre de courage qu'il avait. Et ce genre de courage est donné par le Saint-Esprit. Il est accordé à ceux qui craignent le Seigneur et qui le prient, qui ont les regards fixés sur lui, comme dit notre petit chant, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu tournes vers Jésus les yeux. La prière de la reine Esther, si chère à notre frère Igor, la prière de notre frère, de notre sœur Esther, la reine, ça lui a apporté la possibilité d'avoir le courage pour affronter son mari. Elle l'aimait, mais il a fallu qu'elle lui tienne tête. Vous savez, le courage n'est pas simplement une vertu isolée des autres. Je dirais que c'est même pas, on peut dire, mais c'est même pas une vertu. Je crois qu'on pourrait dire que le courage, il prend la forme de toutes les vertus quand elles sont mises à l'épreuve. Regardez Pilate, merveilleux Pilate, qui fait preuve de miséricorde. Ça, c'est une vertu, la miséricorde. Mais quand ça devient risqué, il n'y a plus personne. Regardez Hérode. Il a été attristé quand on lui demande la tête de Jean le Baptiste, parce qu'il aimait bien Jean. Il s'engueulait avec lui, mais il l'aimait bien. Mais il a quand même... Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, perdre la face devant ses amis, devant ses invités. Donc il a coupé la tête. Et Saül, vous voyez ce que ça peut faire de ne pas avoir les yeux fixés sur Jésus, sur Dieu. Saül, dans 1 Samuel 15, 24, il a désobéi à la parole du Seigneur en gardant le butin de guerre. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'argent? Alors, non, c'est simplement parce qu'il craignait le peuple, il a écouté la voix du peuple. C'est quoi ce roi? Regardez à Aaron. Pour apaiser la situation tendue, Moïse était parti depuis tellement longtemps dans la montagne, et puis le peuple commençait à râler, et bien il leur a fait un veau d'or. Il a oublié dans quelle direction Moïse lui avait dit de regarder. Oublié. Exode 32. Si vous lisez Jean 12, 42-43, vous allez voir qu'il y avait de nombreux personnages importants et influents qui croyaient à Jésus. Mais, à cause des religieux, ils ne se joignaient pas aux disciples. Alors, ne nous empoisonnons pas avec des suppositions, ne nous empoisonnons pas en inversant les commandements, l'ordre des commandements. C'est Dieu d'abord. Ne m'empoisonnez pas avec vos suppositions. Parce que je parle avec hardiesse de ce que le Seigneur m'a donné. J'en parle avec autorité, je ne crains pas, parce que l'amour bannit la crainte. Mais vous pouvez m'ébranler avec vos suppositions. Et c'est pourquoi je décide fermement d'être fidèle à écrire et à enseigner ce que Dieu m'a dit, même si ça ne plaît pas. Dieu m'a donné d'être le fondateur de cette communauté. Et Dieu sait si je ne cherche pas le pouvoir, au contraire, je cherche à l'abattre en le partageant. Je ne cherche pas les honneurs qui viennent des gens, je cherche la gloire de mon Dieu, de Jésus-Christ. Je sais où je regarde. Alors on est tous ici appelés à regarder vers Jésus, la parole faite chair, puis la parole faites livre, puis la parole faites ministère, puis la parole qui vient sur les nuits du ciel pour nous enlever à sa rencontre pour les noces. Voilà à quoi nous sommes appelés. On ne peut pas se passer. L'apôtre Paul dit, ceux qui l'ont connu selon la chair, mais c'est plus comme ça maintenant. Ah bon, c'est comment? Ils n'avaient pas encore la Bible, hein? C'est par l'esprit de révélation, par l'esprit, par la prédication, par les enseignements des apôtres. Les gens qui marchent dans le vaste champ accusent les prophètes, ont toujours fait ça, hein, accusent les prophètes, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants, de ne pas vivre dans leur temps. Mais écoute, Michel, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, on a évolué. Mais tu crois que des vieilles choses, tu t'occupes que de vieux trucs. Tu es dur, tu es sectaire. Regarde maintenant, les églises même changent. Hein, regarde maintenant, là, il vient d'avoir encore un mariage de deux prêtres anglicans, deux bonhommes. Mais Michel, mais ça c'est l'amour, c'est la tolérance. Non. Ils essayent de ramener le code moral au niveau de leur propre comportement. Et moi, je dois être dur. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, je me fous de leur autosatisfaction. Je m'en fous s'ils sont contents avec ça. Je m'en fous. Ce que Dieu veut, c'est ça ce que je veux. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut leur amélioration personnelle par une réelle conversion à Jésus-Christ et une véritable soumission à sa véritable Église. Voilà ce que Dieu veut. Ben voilà ce que je veux aussi. En dehors de ça, il n'y a rien de possible qui puisse être agréé par Dieu. Nous n'acceptons pas les traditions qui sont nées en dehors du sentier. C'est du brouillard. Quand on dit brouillard, dans le mot brouillard, il y a le mot brouille, il y a le mot brouillage. Il y a le mot, vous savez, tout est brouillé, la confusion. Et nous ne nous abaisserons pas, et nous n'abaisserons pas, même les conditions du baptême. Je l'ai fait quelquefois, pour faire plaisir aux gens qui me demandaient, voilà, je voudrais bien être baptisé. Je l'ai fait. Eh bien, je m'en repens. Je m'en repens devant vous. J'aurais jamais dû baptiser ces gens-là. Je comprends mieux maintenant les pasteurs, pourquoi ils font tant d'histoires avant de baptiser les gens. C'est pas facile de plaire à Dieu et de faire plaisir aux gens en même temps. C'est pas facile. Et on a tous cette prise de position à avoir de ne pas chercher notre volonté, mais celle de celui qui nous a envoyés. Et de la faire, pas de duplicité. De la faire. Alors on est là, on vit la parole de Dieu pour représenter notre Père Céleste sur cette terre. On est l'image de sa volonté, la manifestation de sa volonté. Si on regarde à Jésus, amusez-vous à lire Jean 14 à Jean 17, et vous allez voir, j'ai trouvé près de 50 fois, Jésus emploie près de 50 fois le mot « Père ». Et lui, Jésus-Christ, il était à tous égards, quoi ? Le parfait disciple du Père. Jésus le Fils représentait son Père d'une manière tellement parfaite que celui qui connaissait le Sauveur, il connaissait le Père. Jean 14, 9. Il y avait une unité. Entendre le Fils, c'était entendre le Père. Jean 5, 36. Son Père et lui étaient un. Jean 17, 21, 22. Ça, c'est l'exemple parfait. Qu'on doit vivre comment ? En étant un, nous, en ayant le même langage, en croyant les mêmes choses, en regardant le même but, en regardant l'arbre de vie vers lequel nous nous dirigeons. Son exemple est parfait, alors évidemment, nous sommes moins parfaits. Mais chacun doit au moins tendre à cette perfection. Au moins, j'allais dire essayer, j'aime pas ce mot, mais faire un effort dans ce sens. Que son exemple, mes frères et sœurs, nous donne du courage de jamais trembler, ni de nous montrer servile devant les menaces. Que son exemple nous inspire à faire le bien, et faire ce qui est juste, faire ce qui est écrit, et le faire le plus anonymement possible. À ne pas aspirer aux honneurs des hommes, voilà aussi une chose qui doit être dans nos vies. Et que son exemple nous rappelle quel est l'ordre des deux commandements de Matthieu 22, 37 à 39. Il y a un ordre, c'est Dieu d'abord. Quand on nous demande notre approbation à l'encontre des commandements de Dieu, Puissions-nous, mes frères et sœurs, nous rappeler de qui nous sommes disciples et à qui nous sommes soumis de cœur. C'est ça qui est important. Et quelle est la direction dans laquelle nous regardons? C'est là ma prière pour chacun de nous, pour tous ceux qui écoutent, qui regardent. C'est là ma prière parce que c'est tellement important. Nous avons été réveillés par la voix et nous allons à la rencontre du Seigneur. Il n'est pas temps de s'arrêter au chemin. C'est pas, il faut arrêter ça. Il faut continuer à regarder et à nous approcher de plus en plus pour voir de plus en plus l'arbre de vie et dans plus en plus, dans ses détails, dans les détails de ses vertus, de ses qualités, de ses exigences, de ses commandements, de ses ordonnances, afin de pouvoir, tout au long du chemin qui nous reste à faire encore, jusqu'au moment où on va arriver vers lui, eh bien être trouvés fidèles, des fidèles ouvriers qui marchent la tête haute sans faire de compromis avec le chant. Bien sûr que ça paraît, ça nous fait tout drôle parce qu'ils sont si nombreux, puis nous on est si peu. Et Jésus nous a jamais dit que ça serait nous qui serions les plus nombreux. Il a dit, vous êtes un petit peuple, un petit troupeau sur un chemin étroit. En plus, il y a des embûches et puis il y a les tentations parce que de chaque côté, il y a le champ là. Mais gardez vos yeux fixés. Je dirais même, prions que Dieu nous mette une barrière au bord du chemin sur laquelle on puisse se tenir fermement pour pouvoir marcher jusqu'au bout, une espèce de garde-fou comme on fait sur les autoroutes, afin qu'on ne sorte pas du sentier. Prions le Seigneur qu'il nous garde fidèles jusqu'au bout. Amen. Amen. Et qu'il nous fasse progresser. Ne restons pas loin derrière, c'est-à-dire dans les croyances des années de Luther, ou dans les croyances des années de Wesley, ou dans les années de Branham même, mais vivons hors âge. Vivons l'heure du soir telle qu'elle a été annoncée. Merci Jésus. Seigneur, je te prie de nous aider tous à regarder dans la bonne direction, à être un seul cœur, une seule âme, et à avoir du respect pour les autres, mais pas de duplicité, pas de compromis. Aide-nous, Seigneur, à être ferme, chacun d'entre nous, à être ferme sur ta parole, sur ce que toi tu as dit, sur ce que les apôtres ont dit, sur ce qu'ils ont dit qui était bien, sur ce qu'ils ont dit qui était honorable, sur ce qu'ils ont dit qui était louable. Seigneur Jésus, aide-nous à faire ta volonté de cette manière. Merci Jésus. Amen. Amen. On va chanter encore.